It had been 22 years since Dan and Tom last met, since they shared a desk in maths and played football together at lunchtime. 22 years with nothing more than a few Christmas cards and an online friend request to show for it. A 21st century eulogy for the loss of a once great friendship. Until a chance meeting outside the corner shop. On a morning, they both decided to ditch the car and walk instead. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis,
ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là, en effet. Tout à l'heure, à 23h, Julien Cazard nous rejoindra. Tiens, à 23h, on parlera également de Neymar Senior, qui fait encore des siennes. Est-ce qu'il ferait pas mieux de se la fermer?
Fatigant.
On en parlera à 23h, Daniel.
Tu sais que je refuse de temps d'en parler.
De Neymar Senior?
Je n'ai pas écouté.
Neymar, papa.
Ah ouais, non.
Mais il est
on va en parler encore, vraiment?
Bah à 23h, mais tu.
Mais les dégâts.
Ah bah très bien, quand je serai parti, superbe.
Vous, ah,
j'en
vous
peux plus moi non plus.
Les agents des
ah, non, mais...
qui sont compliqués dans la gestion d'un joueur. Souvent on parle non, pas des grands
surtout,
joueurs.
C'est là, surtout là le timing, quoi, lui, encore une nouvelle fois, juste derrière. Quoi, c'est...
On en parle toujours pour les petits joueurs des entourages.
S'il vous plaît.
Tu veux que je te dise, là, c'est même pas pour le club que c'est embêtant, pour nous, c'est même pour son fils là que ça devient gênant. Quoi.
C'est ce que je suis en train de te dire.
C'est terrible. C'est les terrible.
On en parlera.
Entourage néfaste.
Si le mec est en train de ramer dans le bon sens pour revenir, le père, il lui casse les deux rames. C'est terrible.
Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là, et Jérôme Rotten nous rejoint. Salut Jérôme.
Salut à tous.
Jérôme, lui, son entourage le défendait.
C'est quoi ça manger?
Ah ouais, t'as sorti la grosse.
Mais celle-là, elle a passé. On parlait de Paris, elle a passé les quarts de finale de Ligue des Champions, elle.
C'est la montre couleur FC Nantes.
Prime de match ou pas celle-là? Elle est tombée sur une prime ou pas?
C'est vrai que t'aurais pu prendre le bracelet. Quart de finale, c'est une demi-prime.
Ah, t'aurais pu prendre le bracelet rouge et blanc, quand même. Non?
Vas-y, on parle d'autre chose.
Messieurs,
changer, c'est
messieurs, on accueille ce soir Pierre Barthélémy, qui est avocat de plusieurs associations de supporters, très au fait de ce qui se passe dans les tribunes et surtout la législation qui entoure les tribunes. Bonsoir Pierre.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous, puisque ça a été une longue journée.
C'est un job qu'elle vend en poupe, ça. Il y a du boulot. Hein.
Ouais.
Hein
bon, on espérait qu'il y en ait moins, mais.
Il y a 15 ans, il y en avait moins.
Et elle paye les assos ou t'es bénévole?
Je suis bénévole.
Ah ouais, quand même. Tu prends sur ton temps pour ça.
Ouais, mais c'est comme il y en a qui sont engagés parce que.
Non, mais je c'est tout.
Ouais,
à
tu
ton
fais
honneur.
Pas que ça. Tu fais pas que
c'est
ça.
Tout à ton honneur. Et
c'est comme
ça.
C'est comme toi, Daniel.
À la qualité de ton travail.
Les émissions, t'es bénévole, toi.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Bah, on parle de foot. Mon savoir pour le foot français.
Bah, exactement. Heureusement.
Heureusement. Il utilise même son scooter pour venir au boulot et aller d'un lieu à un autre sans le travail.
Mon corps.
Ah ouais, non, bien sûr.
Au-delà de la blague, mais bravo, quoi. Félicitations. Le mec, il pourrait faire son cabinet et tout ça, et il prend sur son temps pour sa passion.
Bravo alors.
Bravo.
Oui.
Alors, si Pierre est là, c'est parce qu'aujourd'hui à la Ligue, il y avait une journée organisée avec toutes les, on va dire, les parties prenantes des tribunes, notamment liée à l'actualité des chants homophobes. On ne va pas parler que de ça avec Pierre, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent dans les revendications des tribunes, entre les interdictions de déplacement, les chants, les fumigènes et tout ça. Donc on va essayer de faire les choses de façon assez concrète et organisée autant que faire se peut dans l'after, parce que des fois, c'est un peu compliqué.
Est-ce que tous les dossiers ont été abordés aujourd'hui?
Attends. Déjà, laisse-moi mettre sur la table ce qui s'est passé aujourd'hui. Était présent donc l'Association nationale des supporters qu'on connaît bien, puisqu'on reçoit régulièrement certains de ses représentants et on aime bien ces dialogues-là, évidemment.
C'était par Rof, c'est Kylian, je sais pas quoi.
Ouais, il y avait Kylian et moi pour la NS, ouais.
Voilà.
Kylian, comment? J'oublie toujours son nom.
Mbappé.
Kylian.
Ah, il a juste un prénom.
Bon, il vous donnera son nom s'il veut le donner, mais il s'appelle Kylian.
Bon, on me l'a dit aujourd'hui, j'ai oublié, tant pis pour moi.
Voilà.
Ok.
Les associations de lutte contre l'homophobie, la Ligue, tout ça, bien sûr, suite aux différents événements de ces dernières semaines, au passe d'armes d'hier encore entre Noël Le Graët, Roxane Maracine et Lout. D'ailleurs, je précise que ça y est, ils se sont rabibochés, communiqué commun, Pierre, ce soir, Le Graët, Maracine à nous, oui, on est ensemble pour lutter contre les discriminations.
Le soleil est revenu, les nuages sont.
L'Élysée a sifflé la fin du match aussi, enfin, voilà. C'est assez clair.
Bon, du coup, voilà, tout va bien.
L'apaisement.
Alors, est-ce que cette journée, Pierre, a été constructive? Est-ce qu'il en est sorti des choses positives? Et, ou alors, est-ce que ça a été une énième journée en mode comité Théodule, comme on sait si bien les faire en France?
Non, journée très positive. Alors, au-delà de ce qui a impliqué les supporters cet après-midi, ce matin, il y avait quand même aussi le premier séminaire des référents supporters organisé par la Ligue. Donc, évidemment, a été abordée aussi la question des champs problématiques pour...
Alors, les référents supporters, il y en a qui ne savent pas, chaque club a l'obligation d'avoir un référent supporter embauché par le club qui sert de lien entre les tribunes et le club.
Voilà. Exactement, c'est une nouveauté donc depuis 2016 et c'est un outil formidable, ce qui vraiment a permis de beaucoup mieux circuler l'information entre les différentes parties. Et là où il y a un vrai référent supporter qui a vraiment noué une relation de confiance avec les supporters, tout le monde reconnaît sa qualité et son utilité pour éviter des tensions. Et notamment, on sait qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur les interdictions de déplacement. Et souvent, eux, ils sont capables d'apporter des informations pour rassurer les préfectures et pouvoir faciliter l'accès des supporters au parquage visiteur. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Et la Ligue s'est beaucoup impliquée sur sa mise en œuvre en créant notamment un poste dédié à la Ligue d'un référent des référents supporters. Donc, c'est
première question.
C'est qui ce homme-là? Qu'on sache qui c'est, parce que c'est, après tout, c'est un poste central.
Chaque club a son référent.
Il y a un
référent qui il s'appelle Maël, qui est très bien. Enfin, il travaille très bien. Et puis, je pense que la Ligue vous en parle.
Ça, c'est un vrai succès quand même, ces référents supporters. On ne le souligne pas assez. Alors, mais
justement, c'est vrai c'est que des gens très importants. Tu as dit à quel point c'était plutôt une belle initiative. Tu n'as pas envie de dire, toi, dans les relais que tu as en référence, si vous pouviez juste arrêter deux secondes les banderoles sur la Ligue, parce que la Ligue, je trouve qu'elle essaye de faire énormément de choses. Elle essaye de bosser sur le dossier des déplacements. Non mais franchement, elle essaye d'arranger les choses.
Peut-être quand tu vois le nombre d'interdictions de déplacement encore.
La Ligue, ne serait-ce que cette saison.
Je sais, mais la Ligue doit travailler dans ce sens-là aussi avec les autorités. Je suis désolé.
Justement, si t'es d'accord avec moi, vraiment arrêter les banderoles, c'est la Ligue fait vraiment beaucoup.
Ouais, en fait, faut dissocier deux choses. C'est-à-dire que la Ligue, bon, il y a des désaccords encore, et puis c'est normal. Enfin,
ça c'est vrai.
On doit pas être dans le meilleur des mondes possible, mais la Ligue fait énormément d'efforts. Elle a fait beaucoup de choses. On peut citer son support sur les tribunes debout. Elle a apporté un gros soutien juridique et technique sur l'expérimentation des tribunes debout avec un livret qui a été remis au ministère et qui a permis de lancer l'expérimentation. Elle a entendu les demandes des supporters sur l'accessibilité des parquages visiteurs en mettant des plafonds de prix à 5€ en Ligue 2 et 10€ en Ligue 1, ce qui, lorsque les préfets ne font pas des leurs, permet de faciliter l'accès à un public plus populaire à ces tribunes-là. Donc, il y a un vrai boulot. Et même sur les interdictions de déplacement, elle s'implique au sein de l'Instance nationale du sportérisme, donc qui est une entité rattachée au ministère où il y a la Ligue, la Fédé, les ministères, les supporters, elles travaillent. En revanche, là où il y a un très gros problème, c'est par rapport à la commission de discipline de la Ligue, qui est indépendante de la Ligue, puisque la commission de discipline doit pouvoir sanctionner les dirigeants de la Ligue lorsqu'ils ne respectent pas le règlement. Et là, on a un problème philosophique principal avec cette commission de discipline, qui prend des sanctions collectives. C'est-à-dire que pour punir 15 personnes qui ont allumé un fumigène, elle va fermer une tribune entière, donc elle va punir 5000 personnes, ce qui crée des rancœurs, ce qui est complètement injuste en soi. On est le dernier pays au monde à prendre des sanctions collectives dans les tribunes, alors qu'en plus on vient de signer en France la convention du Conseil de l'Europe qui dit que c'est une bêtise. Donc enfin, on a un vrai problème avec cette commission de discipline qui en plus charge les clubs avec des amendes. Enfin, on ne sent pas que la qualité du dialogue avec la Ligue se ressent sur la commission de discipline et on reste avec cette injustice incompréhensible des sanctions collectives. Et c'est pour la raison pour laquelle l'ANS a demandé qu'on travaille sur un moratoire sur cette question en disant voilà, nous on travaille sur tous les sujets avec la Ligue et avec toutes les parties prenantes. Donc maintenant on veut un moratoire sur ces sanctions collectives pour travailler plus utilement. Et la raison pour laquelle l'ANS s'est engagée à la réunion aujourd'hui cet après-midi à la Ligue sur l'homophobie, enfin sur la lutte contre l'homophobie, c'est parce que l'ANS a reçu par l'ensemble des parties prenantes des gages en ce sens.
Voilà, donc ça, c'est une vraie avancée. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance maintenant, parce que l'ANS, en gros, ça regroupe quasiment tous les groupes ultra aujourd'hui.
Pas tous, mais c'est assez représentatif.
Quasiment.
Entre les membres qui cotisent et les membres qui soutiennent et qui participent, c'est une quarantaine de groupes de supporters en France, donc ça couvre quand même une.
Donc ça veut dire que normalement, si tout cela est suivi des faits, on ne devrait plus avoir les banderoles où on joue un peu avec les mots et la légalité qu'on a eu ces dernières semaines. Si je résume bien.
Bon, on sait bien que déjà les groupes gardent leur autonomie et leur liberté. L'ANS n'a pas donné de consignes aux groupes. Après, il faut aussi vous considérer, enfin, voir qu'il faut que la pression redescende, que l'information redescende. Donc,
les mecs qui sortent de la Ligue cet après-midi en disant OK, on va faire des efforts, on est tous d'accord, et puis que
si on fait ça, il se passera ça.
Oui. Banderoles, bon. Non,
dans l'esprit, effectivement, il devrait y avoir aujourd'hui une baisse des tensions parce que toutes les parties, la Ligue en première, connue, l'a martelé. On ne dit pas que les supporters sont homophobes, on ne veut pas les stigmatiser. C'est simplement que la société évolue. Aujourd'hui, il faut sensibiliser sur les mots qui peuvent être utilisés dans les champs et dans le banderole. Et ça va être un travail de long terme. Et vraiment, enfin, la Ligue a beaucoup utilisé le mot de discernement. Et c'est ça aujourd'hui. Donc, évidemment, tout va pas changer du jour au lendemain. Il y a peut-être des groupes qui vont être encore un peu réfractaires et échaudés par ce qui s'est passé. En revanche, aujourd'hui, la réunion cet après-midi, elle a acté d'une désescalade des tensions et on va petit à petit revenir à plus d'intelligence et de constructivité dans les travaux.
Avant que Jérôme et Pierre prennent la parole, c'est fini. One ball, le score final entre Nîmes et Montpellier. Julien Landry.
Victoire nîmoise à la sirène grâce à un but de Rémi Salou. 25-24. Et c'est très rare que les Nîmois s'imposent dans le derby et ça lance parfaitement leur saison. Victoire de Nîmes 25-24.
Merci Julien.
Montpellier sans interdiction de déplacement, on salue ouais. La préfecture.
Ouais, ouais, bravo, c'est le handball.
Ça marche.
C'est
pour rendre, ça marche.
Puisque tu abordes ce sujet.
Moins de monde.
Il va y avoir effectivement des avancées. Effectivement, on va essayer d'aller dans le bon sens et de voir si des déplacements ne vont pas être autorisés. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il y a des matchs où c'est mort de chez mort. Hein, Lyon-Saint-Etienne.
Oui, mais à la limite, qu'il y ait quelques matchs, Daniel, on l'entend. Alors, par contre, il ne faut pas féliciter la Ligue pour le rendre, puisque la Ligue n'a rien à voir là-dedans. C'est la préfecture qu'il faut féliciter, si j'ai bien compris.
On félicite bien la préfecture de l'Hérault.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est la préfecture qu'on félicite. Ouais.
Mais pourquoi tu dis, Pierre, s'il y a quelques matchs, on l'entend? Non, moi, je ne l'entends pas.
Si,
désolé, à terme, je ne l'entends pas. J'espère qu'un jour,
à terme,
on arrivera
à
envoyer les supporters Saint-Etienne à Lyon.
Mais tu sais quoi? Pour tout de suite, là.
Non, mais oui,
je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'à la fin, si tout le monde peut se déplacer partout, ce sera ouais, magnifique. Mais je peux entendre qu'il y ait certains matchs avec
plus de
tension et de risque.
On parle tellement loin.
Ça a toujours existé.
Maintenant que dans une journée de championnat, aujourd'hui, dès le début de saison,
autant 5
matchs concernés par ça, j'ai du mal à le comprendre.
Non, mais c'est sur la saison à venir, les seuls matchs où il y a des interdictions, c'est PSG-OM et Lyon-Saint-Etienne. Je pense qu'on aura fait des progrès.
Voilà, par exemple. Par exemple.
À ça. Et puis de toute façon on comprend aussi, par exemple, après les attentats du Bataclan, il y a eu des arrêtés sur tous les matchs, on va le comprendre.
Oui, bien sûr, on parle pas de ça.
Bien sûr,
non, on parle d'une journée de championnat au mois d'août quand ça reprend et qu'il se passe quasiment plus rien d'autre, où il y a 5 ou 6 matchs qui sont concernés par ça, quoi.
On va parler des interdictions de déplacement, des fumigènes, parce qu'en fait, je le disais en introduction, on se rend compte que tout ça est assez imbriqué. La dernière fois, on avait Florian Brunet, qui est porte-parole des Ultramarines à Bordeaux, qui lui disait, voilà, son discours était assez clair, il disait, de toute façon, cette histoire de chant homophobe, c'était sa théorie à lui, c'est une façon pour les dirigeants des clubs aussi de faire de la gentrification, c'est-à-dire d'essayer de nous sortir du stade pour mettre une population différente à la place.
C'est le gars avec qui Daniel était d'accord,
oui,
c'est ça.
Voilà.
Non, mais justement,
au fond, ils étaient assez d'accord.
Oui, je remarque, mais non, c'est non. Je taquine, Daniel, je taquine. C'était une blague, parle pas là-dessus.
Très, très calmement. Pourquoi ce qu'il dit est une absurdité? Ce complot, parce que c'est comme ça qu'il en parlait, ne peut pas exister en France. Tout simplement parce que cette histoire de gentrification et que redoute Pierre, tu me dis si c'est complètement faux ce que je raconte, qui est redoutée par les tribunes en France et qui, il a raison. On pourrait la redouter. On n'a pas du tout la même sociologie, la même histoire par rapport à l'Angleterre. Quand l'Angleterre le fait, d'abord, ça, c'est après des années, des années de débordement qu'on n'a jamais eu en France, fort heureusement. Mais c'est surtout que quand ils font la substitution sociologique dans les tribunes, ce qu'ils proposent ensuite sur le terrain en termes de spectacle, de moyens financiers, tu peux, c'est un des éléments, hein, c'est pas l'élément principal, mais tu peux dire, je vais faire venir un autre public. Quand t'étales des millions sur la pelouse, que ça devient le championnat des étoiles, tu dis, ouais, ok, on va peut-être séduire le cadre qui vient en loge, ou des gens qui sont prêts à mettre 50 balles par billet, pour voir que des stars jouer, tout ça, machin. La Ligue 1 ne peut pas proposer ça. Qui tu vas faire venir pour remplir le stade? Tu peux pas virer les ultras, tu peux pas virer les supporters, qui d'ailleurs, quelque part.
Ça dépend du stade? Il sera plein sans les ultras. Hein.
Bah, oui. S'ils ont aboli le plan Le Prou, c'est qu'ils se sont rendu compte.
Ouais,
qu'il
ouais, ouais, voilà.
Il n'y aura peut-être pas d'ambiance, mais il sera.
Non, il manquait l'ambiance. Oui, mais ouais, Gilbert
ouais,
a raison.
Il manquait quelque chose.
Donc ça ressemblait aux ambiances anglaises.
Il n'empêche que même là, ça a posé un problème. Non, mais même là, ça a posé un problème et le PSG n'aurait été qu'une exception. Et finalement, un pas en arrière a été fait. Donc, c'est un élément important. Et ensuite, le deuxième, peut-être le plus important pour l'Angleterre, il y a, il me semble, une tradition et une culture du foot qui n'a rien à voir avec la nôtre. Oui, là-bas, tout le monde s'intéresse au foot, toutes les classes sociales, ici aussi, depuis, on va dire, 10-20 ans. Oui. Mais avant que tu remplisses des stades en Ligue 1,
tous les week-ends,
là, à Bordeaux, tous ces publics qui sont très difficiles, à Nice, bon, maintenant, il va peut-être y avoir de l'oseille, ça va faire venir du monde, à Monaco... même à Marseille, où ils ont fait un énorme stade, quand tu vas avoir une moyenne de 50, déjà,
la gentrification à Monaco, c'est un concept.
Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Cette crainte-là de ce complot que fomenterait la Ligue pour virer le peuple du SAT, c'est une connerie sans nom.
Pas la Ligue,
non. C'est les gens de club. Les dirigeants, la Ligue. En gros, les gens à Oseille, je l'ai encore entendu cet après-midi avec Dorasso sur le plateau de BFM. Le mec, t'es le complot.
Je vais décidément être beaucoup d'accord avec Daniel. En revanche, pour moi, quand les ultras tiennent ce discours, c'est un ressenti réel, c'est sincère de leur part. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a deux biais. Le premier biais, c'est que souvent, certains utilisent la médiatisation du football pour d'autres combats. Et le conflit qui est né sur la question de la censure, sur l'homophobie dans les stades,
absolument vrai.
C'est un agenda politique de certaines personnes qui utilisent le fait qu'il y a une vitrine médiatique sur le foot. Et donc, du coup, ça retombe sur les supporters, alors que c'est un problème de société beaucoup plus grave et que, objectivement, on connaît personne qui va pas au stade, enfin, qui a été exclu d'un groupe de supporters parce qu'il serait gay. Donc, il y a vraiment eu un problème dessus. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une sorte, en France, de manque de culture foot, de mépris de classe pour les supporters, qui sont souvent un peu caricaturés. Et donc, du coup, c'est plus facile de prendre des mesures restrictives de liberté contre les supporters, avec les interdictions de déplacement, avec les interdictions administratives de stade, que contre d'autres corps sociaux. Et d'ailleurs, on a bien vu que l'interdiction administrative de stade, elle a été validée contre les supporters, mais elle a été censurée contre les manifestants. Alors que dans les faits, ce sont exactement les mêmes libertés qui sont censurées. Et qu'un supporter, quand il va au stade, qu'il exprime sa passion, qu'il fait du lien social avec son territoire, il est tout aussi utile à la République, à la démocratie, que quelqu'un qui défend ses convictions dans une manifestation. Et donc, cette conjonction de détournement de la médiatisation du foot et mépris de classe des supporters fait qu'on se retrouve effectivement avec ce genre de cobayes malgré eux des supporters, mais il n'y a jamais l'intention d'aseptiser, de tuer les supporters. Et à la Ligue, je suis sûr qu'ils ont convaincu que, par exemple, des clubs comme Strasbourg ou Grenoble, s'il n'y avait pas eu leurs ultras, quand ils sont tombés très très bas après des
débats remontés,
s'ils sont remontés, s'ils sont restés
bien sûr,
c'est grâce aux supporters.
Et parfois, c'est ça que j'essaye de
combattre aussi,
et tout. Ouais, parfois, il y a une forme de parano chez les supporters.
Pas faire de l'anticorps.
D'être dans une posture de on est seul contre le système. Mais non, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il devrait essayer de... Alors, c'est vrai que dans la culture ultra, on est un peu contre et qu'on ne veut pas bosser main dans la main avec les institutions. Mais en France, il y aura une chance vraiment forte et ça pourrait être très positif d'avancer dans ce sens parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas les mettre dehors. Le football français a besoin de ça. Si le football français n'a pas ça, il va avoir quoi? Déjà, sur le terrain, c'est assez triste. Si en plus, on vide les tribunes et tout. Donc, là, il y aurait matière à faire quelque chose. Et c'est pour ça que la Ligue, d'ailleurs, travaille beaucoup en ce sens. Et
oui, mais sauf que ça s'arrange. J'entends tes arguments.
Sur quel sujet, Daniel?
Ils ne sont pas réfractaires. Ils ne veulent pas se couper. Il n'y a pas de
cassure. Si c'est pas la Ligue, il y a quand même d'autres problèmes parce que je suis désolé. Tout ce que tu dis là, on ne va pas dans ce sens-là pour les groupes d'ultra qui ont de moins en moins le droit de se déplacer, qui ont de moins en moins de liberté dans les stades aussi. Ah oui, mais ça fait partie de leur liberté.
Il y a une avancée.
À un moment donné, quand tu es ultra, tu suis ton équipe et que tu peux plus la suivre et que tu peux faire qu'un match sur deux, c'est à domicile. Eux le ressentent sûrement comme mais ça. C'est qu'on n'avance pas dans le bon sens.
C'est de la lâcheté politique. C'est pas une volonté délibérée contre les ultras. C'est de la lâcheté politique parce que c'est du foot et que le foot.
Je suis d'accord. Mais t'es bien placé pour savoir que je pense que les ultras le ressentent eux comme loin de le ressentir comme une avancée en tout cas.
Toutes les raisons de le penser.
Bien sûr.
On leur tape dessus sur l'alcool. Vous pouvez boire de l'alcool au bar ou en soirée étudiante jusqu'à ivre mort et faire des comas éthyliques. Mais en revanche, dans un stade, si vous buvez une bière, vous allez devenir
Einstein.
On leur dit qu'ils peuvent pas allumer de fumigène alors qu'on voit des manifestations de policiers ou de pompiers, ils allument des fumigènes.
Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça.
De Jérôme qui a allumé un fumigène à la mairie de Paris après la victoire en Coupe de France contre l'OM.
Ah oui, il aurait dû être sanctionné, bien sûr.
C'est pour ça que je défends les fumigènes. Et puis toujours.
On leur dit vous pouvez pas vous déplacer parce que si vous déplacez, vous allez mal vous comporter. Il y a des mesures d'exception pour le sport, les interdictions.
Ces choses-là peuvent aussi arriver. Il faut pas. C'est pas non plus le monde.
Ça va tellement loin.
Rose, extraordinaire. Mais
oui, c'est une accumulation et c'est normal quand on est supporter qu'on ressent cette accumulation.
C'est pour ça qu'il faudrait. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas se braquer et être totalement contre le système, mais il faudrait faire des avancées des deux côtés pour que. Des deux côtés pour essayer de se retrouver. Au lieu de n'avoir rien, pour au moins avoir un peu, voire la moitié, et petit à petit avancer.
Mais c'est pas être. Oui, ce serait idéal, ça serait idéal, je suis d'accord.
Parce que tu n'avanceras jamais.
Mais qui sait qui avance pas,
Là, pour le coup, il y a un vrai argument, c'est que depuis la création de l'Association nationale des supporters, il y a quand même un vrai interlocuteur au niveau national.
Ouais.
Dans cet assaut, il y a les Nîmois et les Montpelliérains, il y a les Nancyens et les Messins. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Les Parisiens et les Marseillais?
Il n'y a pas les Marseillais, mais il y a les Parisiens. Bon. Enfin, donc il y a des gens qui font fi de leur rivalité et de divergence.
C'est intelligent.
Et ça donne un interlocuteur au pouvoir public. Et c'est aujourd'hui, il y a eu une vraie prise de conscience. Et je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, qu'ils soient présents à la réunion à la Ligue aujourd'hui pour les ultras. Enfin, on se rend compte que c'est quand même. C'est très fort de leur part.
Mais beaucoup considèrent encore que c'est une trahison envers les valeurs de base du mouvement de discuter et d'aller en gros discuter avec, entre guillemets, l'autorité. Il y a encore un petit peu cette culture-là. C'est un petit peu dommage. Je peux la comprendre. C'est des valeurs de base du mouvement. Et ce qui fait que parfois, les gens qui les représentent ne sont pas forcément légitimes après à l'intérieur. On dit, ouais, toi, t'es allé parler, mais après tout, t'es qui?
Quand l'ANS va à une réunion, elle a un mandat de son Assemblée Générale.
Très bien, tant mieux alors.
C'est clair.
On va accueillir Saad qui veut intervenir. Ensuite, on parlera du politique, parce qu'il y a certains politiques qui veulent que les choses évoluent. Et
on les avait reçus. En plus, il y a des politiques qui sont équipés.
Saad, bonsoir.
Bonsoir, les gars.
Salut. Bonsoir. T'es supporter de quel club?
Du Paris Saint-Germain.
C'est bien.
Très bien.
C'est bien. Il y en a d'autres, mais c'est bien ça.
Alors, ton avis dans le débat, là?
Ben justement, alors moi je vais aller un peu plus loin et pour une fois je trouve que Daniel est un poil naïf. Pour avoir travaillé à la billetterie du Paris Saint-Germain au moment où c'était en train de changer, où les Qataris étaient arrivés, moi j'ai vu le changement de population dans le stade, en tout cas au parc. La gentrification, ben, j'ai même entre guillemets
participé. J'ai dit le PSG était une exception, ne dis pas que je suis naïf. C'était une exception, je parlais de tout. Il y a 19 autres clubs en France.
Vas-y, ça, vas-y.
Je te parle de ce que moi j'ai vécu pour l'avoir expérimenté, mais tu l'observes aussi dans les autres clubs. Il y a juste un signe qui trompe pas. C'est dites-moi quels sont les derniers clubs qui ont été rachetés en France. Bordeaux, Nice, Lille, et leur point commun, c'est d'avoir un stade récent. Le premier truc dont a parlé Héro quand ils ont racheté Marseille avec Macourt, enfin, quand Macourt a racheté Marseille, c'est la fameuse sono dans le stade, c'est l'exploitation du stade Vélodrome. Quand les Qataris sont arrivés, pour la première fois de notre vie, on a entendu parler des baux amphithéotiques pour l'exploitation du Parc des Princes.
D'accord, mais ça, si tu veux développer le business, ça permet au club d'avoir plus d'argent pour avoir plus de joueurs.
Ce qui se passe, c'est qu'on cherche, je pense, à exclure ou à réduire la part des ultras et des supporters qui consomment peu dans le stade pour faire encore plus de place à des gens qui vont consommer.
Mais il n'y a pas les gens, ça n'existe pas en France, ces gens-là.
Je termine. Le point de dissonance, c'est que les gens qui mènent ces politiques-là sont des anglo-saxons et ont l'habitude de faire leur pays.
Je vais défendre ça sur un point. Daniel, en fait, tu as raison, sauf que dans l'esprit des dirigeants, pour comment il s'appelle notre ami Dagroza par exemple, pour Macourt, pour eux ça existe.
C'est
une erreur.
Mais ça existe parce qu'il regarde le modèle parisien. Daniel disait que c'était une exception.
Si le mec a l'idée
de erreur de leur part,
je pense qu'il lui faudra 2 mois pour voir qu'il fait complètement erreur. Ou alors il est vraiment con en marketing s'il croit ça, hein. Vraiment. Hein.
Ah, il a voulu réduire la file d'attente pour les hot dogs et il a vu que ça avait rien changé. Ouais.
Exactement. D'ailleurs là, il a râlé sur le niveau des sponsors.
Il n'y a pas moyen de le faire en France comme en Angleterre. Ça
merci
pas
pour ton expérience en tout cas, c'est intéressant.
Et puis vraiment,
et puis au Paris, il y a eu un pas en arrière de fait.
À Paris, si les ultras sont revenus, c'est pas un cadeau ou c'est pas parce qu'on a gagné en justice contre le PSG. Ils étaient prêts à perdre des années encore, hein, mais c'est vraiment parce que les joueurs en avaient marre.
Et
le public commençait à quitter le stade. Qui étaient venus pour les stars à l'arrivée des Qataris ont commencé à partir. Parce qu'il y a plus d'ambiance, c'est mort. Donc ils venaient pour les gros matchs, mais ils revendaient leurs billets pour les matchs en hiver contre des clubs de deuxième partie de tableau.
Mais même le PSG ne fait donc pas office d'exception. Parce qu'au final, un pas en arrière a été fait.
Dans quelques instants,
donc,
on continue le débat.
Elle n'existe pas.
On parlera des politiques qui, pour certains, veulent assouplir les dispositifs actuels. Et je suis sûr que Pierre a un avis là-dessus. On parlera également des différents recours mis en place pour parfois.
Pourquoi on n'a pas du tout parlé de ce qui était l'objet central de la réunion du jour, là?
Bah, si, au début, t'as pas suivi.
Quand même. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end?
C'était l'époque. On l'a dit, là.
On va attendre la réaction.
Les signes ont été envoyés d'apaisement.
Tiens, regarde si c'est pas beau un fumigène.
Mais on peut continuer d'en parler dans quelques instants. Et on voit Jérôme Bretagne sur RMC Sport News avec un fumigène à la main.
Après une victoire contre l'OM.
Non mais t'as fait ça toi. Jean-Michel Aulas l'avait fait dans la tribune, Jérôme Bretagne l'a fait également.
Non mais à la mairie de Paris, c'est encore plus beau.
Dans la mairie.
C'est juste là.
On était tous sur le parvis et il sort pour craquer le fumier.
Attends, je veux dire qu'ils m'en ont voulu. Ouais, retire ça. Laissez-moi tranquille.
À tout de suite dans la
foule. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent?
C'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. C'est l'after, bien sûr. Jérôme Rantaine, Pierre Ducrot, Daniel Riolo et Pierre Barthélémy avec nous ce soir, avocat de plusieurs associations de supporters, donc et passionné de foot par ailleurs. Hein, voilà, bien compris, Pierre, puisque pour être impliqué comme ça, il faut être à fond dedans.
Passionné du PSG, ouais.
Passionné. T'es pas passionné de foot, mais passionné du PSG.
Ah, c'est une passion.
Honnêtement, je regarde pas un Nancy Metz alors que c'est un derby, mais je regarde pas un Nancy Metz par exemple. C'est pas mon club. C'est mes couleurs qui me font vibrer.
Strasbourg un peu ou
ouais, non, puis, bon, jamais. Et là ça va faire plaisir à Gilbert, parce que si tu peux dénigrer Metz et Nancy,
c'est ambiance, mais mais je regarde pas le terrain.
Ouais. Bon. Allez, tu peux conclure en disant que Strasbourg c'est quand même beaucoup mieux que Metz, ouais. Et là t'as gagné,
ah,
ta soirée.
Ah, ben là t'as gagné ta soirée.
Nous, on s'en fout de Metz, nos concurrents c'est Mulhouse.
Ah, d'accord, pardon.
Bon, Nathalie Bois de la Tour.
Ah, Mulhouse, il m'a
sorti. Nathalie Bois de la Tour, c'est
exclusif. Est-ce que vous avez été bien reçu et.
Mais tais-toi maintenant, j'allais lancer un son. Daniel, tais-toi. Nathalie Bois de la Tour.
C'est exprimé. C'est sévère. Autant des fois, Daniel, c'est parce qu'il parle un peu trop, machin. Là, il pose une question intéressante.
Là, je vais lancer une interview.
Ah, ouais, mais là, c'est vraiment intéressant.
Une vraie question, est-ce que vous avez bien bouffé?
C'est intéressant de savoir comment ils ont été reçus, si vraiment au fond, on voulait bien les recevoir, ou si c'était.
Vous préférez la réponse à cette question plutôt qu'entendre.
Moi, je pense. Moi, je pense qu'on peut avoir les deux. La sueur, c'est les deux. C'est le plaisir et l'info.
Bien sûr. Je ne sais pas si on peut donner des noms, mais on a bouffé au Burger King avec l'autre supporter. Voilà.
Et comment ça? Non, mais à quelle heure vous avez été reçu à la Ligue? De quelle heure à quelle heure?
De 15 à 17.
Bah, il y a un goûter quand même.
Il y avait un petit goûter.
Un petit goûter.
Des macarons, des. Non,
non, non.
À 15h,
orange, coca.
Et puis un Burger King, ça te cale.
Non, mais d'accord. Ouais, mais non, proposé que t'en aies pas mangé
à la Ligue. Non, mais 15-17, c'est la tranche de merde, en fait, parce que l'apéro est pas encore arrivé. Non,
mais au moins des boissons, il y a
et
un petit
et Dijon, il y en a plus. Hein.
Non,
il y avait des cafés.
Non, mais la Ligue.
Non, il y avait des bonbons.
Bah, écoute.
Ah, il y avait des bonbons. Ah, là, il y avait du goûter, il y avait des bonbons.
Il y avait des bonbons. Ouais, non, mais ça, d'ailleurs.
Dans cette tranche-là, 15-17, des bonbons et une boisson.
C'est limite. Non, c'est limite des bonbons, quand même.
Bah, non, franchement, j'étais comme un gamin.
Un macaron avec un café, non?
À la Fédé, vous auriez eu l'armoire à Dijon. L'ardoise à la Villa Corse en face.
À la Fédé.
À la Fédé.
Tu vois que c'est intéressant.
Mais à 15h, elle est fermée. La porte est fermée à la Fédé.
Oui, à 15h, ils sortent de la Villa Corse.
Ils sont cuits. Ils se réveillent à 18h. Ils font la sieste de 3h.
Alors, écoutez Nathalie Bois de la Tour, qui s'est exprimée à l'issue donc, de la rencontre du jour. Son résumé à elle, c'est intéressant.
Les supporters qui chantent, clament ces propos ne sont pas homophobes. Il n'y a pas de raison de les stigmatiser. Simplement, effectivement, ça fait partie des coutumes. Et aujourd'hui, peut-être qu'à la Ligue, et nous faisons notre mea culpa, on a toléré trop longtemps ce qui n'est plus acceptable au regard de l'évolution de la société.
Là, elle prend la défense des ultras, là, en l'occurrence. Hein. C'est intéressant, quand même, Pierre, que la présidente de la Ligue se positionne de cette façon-là.
Ouais, mais au-delà de prendre la défense des ultras, elle dit la vérité, elle fait le bon diagnostic.
Ouais, exactement. Ouais,
elle s'est fait assassiner quand elle a dit que pour les supporters, c'était un folklore, ouais. Alors que c'est juste la réalité.
Là, elle dit tradition, bon, c'est un peu différent que folklore.
Mais bah, oui, elle peut pas dire le mot, parce que maintenant.
Folklore, c'est démonté.
La réalité, c'est que si on fait pas ce diagnostic-là, comment est-ce qu'on peut résoudre la situation, si jamais on estime que c'est un problème? Parce que si on résume, les supporters sont homophobes, alors que les supporters sont. T'es pas homophobe et que c'est juste dans leur esprit un folklore, tu peux pas le résoudre.
Non, mais le truc qui est gênant que vous allez à chaque fois reprendre dans la tronche, c'est que évidemment le but est pas de stigmatiser, de dire ils sont homophobes. On le sait bien, on connaît tous, nous étions dans les stades. Mais de la même façon, ceux qui vont proférer des insultes ou des choses racistes diront on n'est pas raciste.
Ouais.
On fait ça. Il y a 3-4 abrutis qui le font. La plupart, on le fait, soit pour faire chier, soit pour déstabiliser. On en revient au communiqué des mecs de l'Inter.
Ouais, mais ça, enfin.
Mais
non,
mais
la réponse de Pierre là-dessus.
Tu vas revenir à une hiérarchie de la discrimination.
Ça, non, sauf qu'il y a un argument qui est dit de façon honnête et il y en a un autre qui ne l'est pas, je suis désolé.
Mais non,
quand il y a des cris de singe envers un joueur noir, tu sais que c'est du racisme.
C'est exactement ça.
Si le mec me fait des cris de singe envers n'importe quel joueur, envers des blancs, tu peux te dire le mec est débile, il veut juste déstabiliser.
Les mecs de l'Inter, ils t'ont dit le contraire.
Non, mais ils l'ont pas fait contre des joueurs blancs, ils l'ont fait contre des joueurs noirs. Donc tu sais très bien que c'est une orientation raciste. C'est ça le truc.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire quand on fait les cris de singe à un joueur noir, le message il est clair et ça vise quelqu'un en particulier. Quand on chante Marseille, on t'encule au stade, objectivement, ça a aucune connotation volontaire, consciente, homophobe. Après, on en revient à la deuxième question.
Mais ça peut blesser les personnes comme les gens racistes.
Ça peut blesser des gens et donc c'est là qu'il faut un débat, un dialogue, de la sensibilisation, de l'écoute. Mais si on dit aux gens, vous êtes des homophobes alors qu'ils le sont pas, le débat va pas avancer.
Il faut vraiment un grand débat, du dialogue, de l'écoute. Tu peux pas juste dire.
Il chantait depuis 30 ans. Enfin,
et alors, quoi. T'es obligé de compte. Enfin,
ah oui, non, mais
au bout d'un moment, tu te dis pas que ça.
Quand tu veux changer quelque chose qui se fait depuis 30 ans, bah, il faut prendre le temps d'expliquer.
C'est pas comme ça.
Mais c'est pour ça que récemment, quand on en parlait, je disais aussi que ça, c'est même dans les stades, c'est presque même.
En gros, c'est pour déstabiliser.
C'est une question d'éducation aussi. Il faut plus que ce soit dans les mœurs de parler comme ça. C'est une question pour moi d'éducation à la base, quoi. Enfin, chez toi avec tes gosses, partout.
Non, même à l'école, les chants de supporters, parce que ces paroles-là font partie des chants de supporters et que c'est compliqué. Je peux comprendre que c'est compliqué au bout d'un moment de tout oublier, quoi.
Puis c'est chanté mécaniquement, c'est pas ça. C'est chanté mécaniquement.
C'est plus là-dessus, donc c'est mécanique. Autant, c'est peut-être plus facile.
Autant d'agressions homophobes et en recrudescence absolue de ce genre de choses dans la société, alors que ça avait, je dis pas disparu, mais en tout cas on en entendait beaucoup moins parler, et qu'aujourd'hui t'as un taux de suicide chez les jeunes homos qui est 6 fois plus élevé qu'un jeune hétéro, que tu as de plus en plus d'agressions contre les homosexuels, tu peux aussi faire une démarche intellectuelle. Tu dis oui, pendant 30 ans on l'a fait,
mais je pense que ça va s'améliorer, Daniel, de toute façon, avec du dialogue.
Aujourd'hui qu'effectivement, bon, ça pue un peu de continuer et tout.
Mais oui, mais Daniel a raison, c'est exactement le discours qu'il faut tenir. C'est expliquer qu'il y a des gens que ça heurte et que de toute façon, les supporters, c'est pas dans leur volonté de blesser des gens. Donc quand on prend le temps de l'expliquer. Mais après,
c'était quoi l'association, l'ancien Paris Foot Gay, qui nous expliquait exactement ça. Il disait, nous, on est prêt à aller dialoguer. Et pourquoi on se sent insulté.
Eux, ils posent plainte et après ils disent qu'ils veulent parler, donc c'est différent aussi, mais il y a des assos qui sont là pour bosser.
Je te parle pas plus de celle-là qu'une autre, mais c'est vrai que c'était un exemple. Il disait, c'est vrai que si on va choper des ultras un par un, on va leur dire voilà, nous ça nous choque, nous on se sent insulté, la personne en face va comprendre.
Mais oui, c'est
surtout si elle est homophobe. Et comme tu dis, la majorité, même les quasiment 100% des ultras comme ça qui chantent ces discours, ces chants-là, ne sont pas homophobes. C'est juste une culture.
Les assos de supporters, elles ont un vrai rôle social de territoire, social. Elles sont souvent beaucoup d'associations engagées dans les luttes contre les discriminations au niveau local. Il y a un vrai travail.
Ouais, bien sûr.
Et pas que contre l'exclusion à raison de l'orientation sexuelle, aussi l'exclusion économique, financière. Il y a souvent des collectes à Noël pour les enfants. Il y a aussi
des
maraudes. Le CUP à Paris fait beaucoup de maraudes sociales. Il y a des gens qui vont apporter des jouets aux enfants malades à l'hôpital. Donc,
ils devraient communiquer un peu plus d'ailleurs là-dessus, les associations.
Oui, mais ils le font pas pour faire leur
pub.
Ils
le font par conviction, justement.
Donc, si le grand public le savait.
Ça donne une image.
Voilà. Si le grand public le savait, ça pourrait changer l'image globale.
Vous leur reverrez dans la gueule en disant vous faites ça pour.
Pour pouvoir péter derrière la gueule du voisin.
Exactement.
En tout cas, moi, je trouve qu'il y en a qui le font. Néanmoins, dans ce climat qu'il y a eu aujourd'hui à la Ligue et dans l'apaisement, c'est qu'au moins les radicaux, et c'est vrai que certaines assos sont dans la radicalité totale et elles peuvent défendre l'homophobie, ok, très bien, mais il n'empêche qu'elles peuvent également radicales et prôner des solutions radicales. Cet après-midi, pardon, mais j'étais sur le plateau de BFM avec Vikash Dorasso. Très franchement, le mec, il est sur une autre planète, quoi. Lui, il dit que t'arrêtes complètement le match, qu'on peut vivre sans football, qu'il faut inventer une nouvelle société où le football n'aurait plus sa place.
C'est plus facile.
Il n'a pas vécu du football, lui.
Non, mais moi, je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a des gens qui vivent du football dans les bureaux, c'est une économie gigantesque, le football. Réorganiser la société en fonction de.
Bon, c'est bien pour quelques idiots de priver tout le reste, quoi. C'est intelligent.
Donc, hein. si aujourd'hui, déjà, ça a permis une sorte d'apaisement, faudra voir ce qui va se passer ce week-end au niveau des. Parce qu'on a beaucoup parlé d'arrêt de match. Jusque-là, nous n'avons eu que des interruptions. C'est quand même pas la même chose, quand même. Hein. Si on peut faire ça avec plus de discernement ou si un dialogue a été amorcé, c'est quand même mieux qu'on soit dans cette voie-là plutôt que dans la voie des radicaux qui voulaient vraiment.
J'aimerais qu'on ferme définitivement le chapitre champ homophobe pour parler des interdictions de déplacement. Parce que Pierre connaît le dossier par cœur et on a entendu une volonté politique récemment. Plusieurs interlocuteurs. On a reçu Sacha Houlier, nous, au mois de mai, je crois, qui est député La République En Marche, avec un groupe de parlementaires. Ils veulent tenter de revoir la loi pour assouplir un petit peu les choses. Même Roxana Maracineanu a fait des déclarations dans ce sens récemment. Est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les choses se détendent un petit peu, que les préfets soient un petit peu moins rigides dans les semaines et les mois qui viennent, s'il y a une volonté politique derrière qui suit, Pierre ?
Alors effectivement, on est allé beaucoup trop loin dans les interdictions de déplacement. L'an dernier, il y en a eu 102. Cette année, on est déjà à plus de 20, alors qu'on est qu'en septembre. Donc, enfin, interdiction et restriction. Mais une restriction, quand on dit aux Stéphanois ouais. qui seront 300 à Lyon, ouais, ils vont pas discriminer entre Bruyères. Donc, ouais, c'est comme une interdiction. Ou quand on les oblige, quand on les supporters de l'OM qui veulent aller au match à Strasbourg et qui habitent en Alsace, on leur dit qu'il faut prendre le bus depuis Marseille et monter au stade et puis redescendre en bus à Marseille.
Oui, c'est très intelligent.
C'est des interdictions. Donc, il y a, c'est aller trop loin. Il y a vraiment des gens qui
saisissent.
Donc, il y a effectivement Sacha Houllier et Marie-Georges Buffet qui sont deux députés qui ont pris en charge ce dossier et qui ont lancé une mission d'information sur 6 mois à l'Assemblée nationale sur tous les sujets qui touchent aux supporters, mais notamment les interdictions de déplacement. On a la ministre des Sports, Roxana Maracignanu, qui a été, pour le coup, vraiment très claire et très nette. Elle est même allée un peu à la confrontation avec le ministère de l'Intérieur sur le principe en disant « stop, il faut peut-être qu'on en parle ». Et au sein de l'instance nationale du supporterisme, qui dépend de son ministère, il y a un groupe de travail sur la question et le ministère des Sports fait sa part de travail. Et il y a aussi, et ça c'est très grande annonce qui a été faite aujourd'hui, mais qui est un peu passée inaperçue par Nathalie Baud-Latour dans la conférence presse tout à l'heure. Elle a dit qu'elle réfléchissait à changer le processus de décision des interdictions de déplacement et ne pas laisser ça à la seule main des préfets, mais solliciter au préalable l'avis de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais qui, elle, connaît parfaitement le dossier, puisque c'est l'interlocuteur des clubs, des groupes de supporters, oui. de la Ligue, de la Fédération.
Monsieur Mordac, qu'on a reçu également dans l'after.
Je sais que je ne vais pas être très populaire en disant ça, mais il fait un très bon travail. Il est très à l'écoute. Après, évidemment, comprends qu'au niveau local,
on l'a reçu, pas. Si on sait ça.
Au niveau local, on ne l'entend pas. Beaucoup pensent qu'il a un double discours.
Oui, qu'il est juste dans la répression.
Parce qu'effectivement, il n'a pas la main, il n'a pas la compétence aujourd'hui, et ça reste des préfets qui ne connaissent pas le sujet. Et les préfets, eux, ils veulent
prennent
juste,
les décisions.
Ils veulent dire, voilà, je suis resté deux ans dans le
ce qu'ils veulent, c'est que ça leur retombe pas sur la gueule s'il y a un incident.
Je suis resté deux ans dans le département de la Loire, j'ai géré Saint-Etienne, il n'y a eu aucun souci en tribune parce que j'ai interdit tous les déplacements.
Voilà. C'est ça qui veut. À ce moment-là, tu interdis toutes les manifestations, tu interdis tout.
Alors que et donc, si on remonte un peu la responsabilité sur la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui connaît le sujet, les préfets au niveau local, ils vont se dire bon, bah, ça retombe plus sur moi parce que je vais pouvoir me décharger sur la Division nationale contre le hooliganisme. Elle connaît le sujet, donc elle ne va pas paniquer sur un Lorient. C'est Lorient-Brest l'an dernier où il y a une interdiction aussi, par exemple. Enfin, si on ne sait pas gérer un Lorient-Brest, il faut qu'on arrête d'accueillir les JO ou l'Euro.
En breton,
mais c'était chaud.
Dans ce cas-là, on arrête l'Intercelletic, on arrête les vieilles charrues. Si on ne sait pas gérer un Lorient-Brest, on quitte l'ONU. Enfin, ça sert à rien.
Il y a eu une attaque de poisson.
Donc objectivement, c'est une annonce qui est passée inaperçue, mais qui est fondamentale et qui montre que cette annonce, si elle a été faite par la Ligue, c'est parce que ça a été plus ou moins acté avec l'Intérieur, ça a été plus ou moins acté avec les sports, ça a été acté par la Fédé. Donc globalement, c'est que c'est quelque chose qui est, à mon avis, en travail avec la mission parlementaire Houllier Buffet et qui devrait peut-être être dans la future proposition de loi. Mais c'est un signal fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, tous les interlocuteurs sur le sujet ont compris les interdictions de déplacement, on fait n'importe quoi. On joue quand même avec des libertés des supporters, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté d'association.
Que tu attaques régulièrement d'ailleurs en gagnant, je crois.
C'est hallucinant.
Parfois, on perd parfois. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ça va dans le bon sens. Mais là aussi, je comprends que pour l'instant, les ultras sur le terrain ou les supporters qui se déplacent, ils ne le ressentent pas. Il y a toujours autant d'interruptions de placement. Donc c'est très dur de leur dire, mais non, tout va dans le bon sens.
Il y a combien de journées ? 4 ? 5 ?
Ouais, après, il y a même eu pour le match amicaux. Ils ont interdit les Napolitains à Marseille pour le match amical.
T'imagines, ça t'en fait 5 par journée, là, pour l'instant.
Le jackpot.
La moitié des matchs où ça.
C'est le préfet du Bas-Rhin. Le préfet du Rhin, il a pris pour les 3 matchs de Coupe d'Europe, plus le match contre Metz. Il a commencé par un grand
global. Il a dit ça.
Donc, on a effectivement un gros problème avec ça. C'est compliqué de dire aux supporters.
Tranquille à la méno, vous êtes gêné par les supporters adverses. C'est ça?
Ils sont toujours bien reçus.
Non, mais justement, ça pose un problème parce que du coup, les supporters de Francfort, ils ont acheté ailleurs dans le stade. Et comment tu veux sécuriser des mecs qui
passent
partout dans le stade alors que tu leur permets pas d'accéder?
Vous savez que moi, j'ai vu des gars de Francfort avec des billets dans la main, des billets de banque dans la main, des euros, en train de les agiter devant le nez des supporters de Strasbourg en disant j'achète ta place, devant le stade.
Ils sont déplacés à 13 000 à Bordeaux. Ils se sont déplacés l'an dernier, ils ont fait la moitié du stade à Chypre. Ils sont déplacés à 12 ou 15 000 à Milan. Et on leur dit en France, ah non, au-delà de 1 000, on ne peut pas.
Alors que c'est à 200 bornes de chez eux en plus.
Et pour le spectacle, quel dommage.
Allez, on continue le débat dans quelques instants. Là, ça, c'est très intéressant et on voit donc que ça va dans le bon sens. Voilà, on apprend des choses ce soir dans l'after, comme tous les soirs d'ailleurs. Et ça continue. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Julien Cazard nous rejoindra dans un petit quart d'heure, bien sûr, pour la dernière heure de l'after. Vous entendez Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs groupes de supporters. Pierre Ducrot est là. Jérôme Rotten est là. On a ressenti toutes les belles photos de Jérôme Rotten.
Moi, je regarde à droite, il y a Rotten. Je regarde à gauche, il y a Rotten. Est-ce que vous pouvez mettre une photo de Jérôme Rotten derrière Daniel?
Tu sais que cette équipe MAG là, je crois que ça reste la plus belle vente.
Ah bon ?
De l'histoire de l'équipe MAG.
Alors c'est une lune de l'équipe MAG avec Jérôme et le titre, le sous-titre c'est Rotten se livre cash.
Le milieu parisien
se livre cash et ils ont retiré le haut parce que le haut c'était Usain Bolt bat le record du monde, mais bon on s'en foutait d'Usain Bolt parce que le plus important c'était moi.
Mais quel boulard, incroyable.
C'est ça la classe. Eh oui Pierrot, c'est ça, regarde.
Non, je lis le petit texte.
Allez, j'aimerais qu'on accueille Riyad qui est supporter de l'OL, qui écoute nos débats depuis tout à l'heure là, et qui veut intervenir. Salut Riyad. Ça va et toi?
Salut Riyad.
Écoutez, ça va, moi j'ai répondu.
On t'entend pas très bien, mon petit Riyad. Attends, on va essayer de rétablir une liaison téléphonique meilleure avec toi, puis on te reprend dans quelques secondes, hein, parce que là, ça crachote. Les gens qui t'écoutent dans leur voiture, par exemple, ne vont pas entendre grand-chose. Est-ce qu'on a parlé des fumigènes aujourd'hui?
Non, c'était pas le sujet, mais en revanche, à l'instance nationale du sportérisme, il y a quatre réunions, deux le 16, deux le 23, et il y a une des quatre qui est sur la pyrotechnie et sur comment réfléchir à des solutions.
Vous avez des propositions alors ?
Ça, j'ai l'impression que c'est un sujet depuis 10 ans et.
Ouais, mais là, ça
ne veut rien savoir.
La ligue est très ouverte. Elle a d'ailleurs fait une expérimentation en fin de saison au Havre l'an dernier, où elle a regardé en fait ce qui est possible par rapport à la loi. Et en fait, quand c'est un show pyrotechnique qui est demandé par le club, la loi le permet.
Et donc, oui, le fin de match, le feu d'artifice et tout.
Oui, mais sauf que là, c'est des ultras qui ont craqué des fumigènes et pour tester. Et ça, il y a l'accord de la préfecture, des pompiers, etc. Et la ligue veut creuser avec l'instance nationale du sportérisme cette possibilité. Après, peut-être
d'encadrer
Ouais, peut-être que les ultras vont dire si c'est encadré, ça m'intéresse pas.
Ouais, mais il y en a que des bonnes nouvelles ce soir. C'est incroyable.
Après, il y a des groupes ultras, il y en a plein. Donc, il y en a peut-être qui vont vouloir jouer ce jeu-là, d'autres qui vont pas vouloir. Mais en tout cas, la ligue, enfin, elle se mouille. Hein, elle dit, moi, je veux bien travailler juridiquement, voir comment on peut épuiser la compétence dans aujourd'hui légale pour avoir un show pyrotechnique encadré. Il y a des exemples. On sait que par exemple en Autriche, les gens ont le droit de craquer dans certaines zones en bas, ce qui n'empêche pas d'autres de faire le craquage sauvage derrière. Mais il y a des exemples. Et non, la Ligue veut travailler. Puis, bon, elle est plus sceptique sur le fumigène froid parce qu'elle considère que le froid, il est quand même chaud. Mais elle n'est pas complètement formée. Après,
là, on n'est pas assez fort techniquement, nous, pour déterminer.
Un fumis, c'est à 2000 degrés et les froids, ils sont à 200. Et considère que 200, c'est trop, alors qu'une bougie d'anniversaire, c'est 1000, de ce que j'en ai dit. Donc, c'est quand même problème. Après, les ultras ne veulent pas forcément du fumier froid parce qu'il ne fait pas de fumée. Mais sans fumée, c'est plus un fumier. En tout cas, c'est sur la table, on en parle. Peut-être que demain, un polytechnicien va nous trouver, ou un école Café Chimie Paris va nous trouver un nouveau produit qui va correspondre aux exigences de la Ligue, aux exigences des pompiers et de la préfecture, et dont le visuel rassurera les supporters. Enfin, ça bosse en tout cas. Et honnêtement, on le dit pas assez, mais ça bosse. Enfin, il y a vraiment des progrès sur les sujets.
Riyad, tu es là ?
Je suis là.
Ah, là, c'est parfait. On t'entend parfaitement bien, on t'écoute.
Bah moi j'appelle pour passer un petit coup de gueule.
On t'écoute.
En fait, qu'est-ce que c'est que ce faux débat là avec lequel vous... Honnêtement, j'en ai plein le cul et c'est pas homophobe, hein. Enfin, attention à tout ce qu'on dit maintenant. De ce qu'on nous bassine depuis le début de semaine. On est tous amateurs de football, on est là pour parler ballon. Et ça fait depuis quelques jours qu'on demande au foot de régler des problèmes de société qui nous concernent pas. Ici, on est tous réunis autour de la même chose, c'est le foot. Et on nous bassine avec certaines choses. Depuis quand certains mots, faut faire attention à ce qu'on dit, depuis quand le terme enculé est devenu homophobe? Moi, je joue au foot au niveau amateur, des enculés sur le terrain, on se dit toute la journée. C'est pas homophobe. D'ailleurs, il y a des femmes qui pratiquent très bien cette pratique. Donc, ça n'a rien d'homophobe. Et en plus, quand on interprète le mot phobie, je vois pas en quoi on aurait peur de ça. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son problème. Est-ce que c'est pas un faux problème qu'on demande au foot de régler? Moi, personnellement, depuis que je vous écoute depuis le début de semaine, je suis fan de votre émission, j'écoute tout le temps, j'ai intervenu plusieurs fois dans l'émission. Ça me saoule. Depuis quand faut faire attention à tout ce qu'on dit? Pourquoi? On prend l'exemple avec Jérôme et Daniel, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Votre histoire, vous avez eu votre galère. Moi, j'étais plié de rire devant la télé quand vous avez dit ça. J'étais mort de rire. En quoi faut faire attention à tout ce qu'on dit? On est dans le foot, on est là pour rigoler. Avant tout, c'est un sport et c'est un plaisir. Pourquoi?
Riyad, le foot n'est pas déconnecté de ce qui se passe dans la société et des tendances du moment, quoi.
Riyad, en fait, le problème, c'est que j'aimerais être d'accord avec toi et je crois qu'au fond, je le suis. Mais le souci, dans ton depuis quand, c'est ce que je dis depuis qu'on est revenu, là, au début de l'été, effectivement, où cette tendance-là, elle est de plus en plus lourde et où ton depuis quand on fait attention. Depuis effectivement, il y a des grosses tendances d'évolution dans notre société, et surtout depuis que Twitter a décidé de dicter le monde et que la lâcheté de beaucoup de grands médias, c'est de suivre ce qui s'y fait et d'écouter les procès quotidiens qui y sont faits. Moi, je le dis, je le répète à tous ceux, j'allais dire idiots, je l'ai pas dit. tous ceux qui ne veulent pas comprendre que ce qui nous est arrivé avec Jérôme, c'est de la faute absolument pas, on va dire, des pouvoirs publics, et qu'en aucun cas un média ne se couche devant devant les politiques. Ça, c'est une théorie du complot miteux. En revanche, devant la puissance des réseaux sociaux et les saisines du CSA qui sont faites par les gens qui font des procès quotidiens sur les réseaux sociaux, ça, oui. Et moi, c'est ça que j'ai gardé en tête de cette expérience, et c'est ça, c'est là que j'ai vu l'évolution du monde dans lequel on est. Donc, dans ton depuis quand, je te le répète, Riyad, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas comment on va faire le chemin inverse de celui qui nous est proposé depuis des mois et quelques années maintenant sur ce nouveau monde qui est dessiné, où effectivement, le fameux « on ne peut plus rien dire », ouais. Depuis, c'est Woody Allen dans une interview récente dans Le Point qui disait c'est la lâcheté des gens qui sont dans les sphères de pouvoir, la lâcheté d'écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux et de croire que c'est la vérité et de croire qu'il y a des victimes à peu près partout et que il faut faire plaisir aux gens qui se plaignent en permanence, Riyad, et qui vous insultent du matin au soir sur les réseaux sociaux.
Tout ça ne vous empêchera pas de continuer à parler de foot par ailleurs, mais là c'est vrai que c'est un sujet important.
On essaiera de changer le moins possible,
le mot de la
mais
fin,
malheureusement je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement.
Là où Riyad a pas tort, c'est qu'on demande aux supporters et au football d'aller plus vite que la société et même que la jurisprudence, hein, parce qu'aujourd'hui vous regardez la plupart des décisions de justice, le juge considère que enculé ou pédé c'est devenu une insulte du langage commun et que c'est pas forcément une connotation homophobe, et donc c'est pas forcément sanctionné pour homophobie. Donc on demande aujourd'hui au foot d'aller plus loin, et peut-être que le foot doit assumer cette responsabilité, parce que le foot a une médiatisation, parce que le foot est un véhicule de valeurs, et parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont blessés par ce mot-là, et que du coup il faut écouter les gens qui sont blessés par ça. Mais en revanche, on demande vraiment au foot et aux supporters d'aller plus vite que la société, et là les politiques ont une responsabilité, c'est qu'ils doivent aussi emmener la société sur ces sujets-là.
Merci d'être venu, Pierre. C'était très instructif, on a appris plein de choses, et puis à la prochaine, tu reviens quand tu veux. Dans l'after, Pierre Ducrot nous quitte.
Tout à fait.
Salut mon gars.
Les pierres s'en vont.
Les pierres s'en vont. Exactement. On remplace
dimanche.
On remplace deux pierres par un Julien. Julien Cazard qui arrive dans quelques instants. Bien sûr, on va parler de Papa Neymar et du reste. Il y aura notamment le quiz tout à l'heure. Le reste de la quiz. Je remercie Riyad, une nouvelle fois au 32-16.
C'est vrai. On en a pas assez parlé.
Ça, pour le coup, Neymar en tribune. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de désescalade sous Cannes.
Ouais. On verra. S'il joue, ça risque d'être
très très fort cette année.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
As he turned the corner, it hit him. A smell so sweet, orchestral masterpieces could be composed about it. But what could it be? He had to find out. So with his nose leading the way, he wandered towards the paradise. He turned a corner and stopped. What lay before him was the most beautiful sight he could ever have imagined. A new bakery. And to think, he'd never have come across it had he taken the car. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.